Radio.
Sans nous.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Sans Nous et aujourd'hui on va vous parler d'éducation populaire et d'esthétique. On est un certain nombre autour de ce salon virtuel parce qu'on rappelle comme d'habitude que nous ne sommes pas enceintes pour faire de la radio mais qu'on utilise une plateforme libre pour se retrouver sur internet et se parler et vous parler. Et peut-être on peut se présenter pour commencer.
Il y a d'autres personnes?
Oui, à Olivia, je suis là.
D'accord. Et Antoine, du coup, confiné aussi sur Saint-Nazaire. Ah,
Ouais, Manu, je t'ai coupé la parole tout à l'heure.
Et Claude.
Radio sans nous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, votre journal. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal.
Plus d'images, plus de dialogues, plus de reportages directs. Nous avons pris des dispositions pour que le journal devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde.
Radio sans nous.
Radio without us.
Radio bedonina.
A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche.
Voili voilou, on se proposait de commencer par un petit temps avec Antoine et Olivia qu'on a invité à discuter avec nous aujourd'hui autour de la question de l'éducation populaire, comment elle va supporter cette situation et comment on va pouvoir imaginer des choses à partir de là. Peut-être Régis, tu te laisses introduire ou Antoine et Olivia?
Oui, on va introduire mais rapidement par une première question. Effectivement, l'annonce du confinement, je crois que c'est le 16 mars, et comment un peu ça nous a, les premiers jours un peu paralysés, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord confiné, on s'est d'abord organisé soi-même, et comment ça nous a un peu paralysés dans notre action d'éducation populaire, dans notre action socioculturelle. Et du coup, la question, ça va être comment ce confinement, on l'a géré, comment on s'en est un peu sorti, comment... pour s'en sortir un peu de ce confinement physique et intellectuel, l'espace collectif a permis d'avancer là-dessus. Donc c'est une première question à Olivier Antoine sur le territoire de Saint-Nazaire, comment ça s'est traité, discuté, et qu'est-ce que ça a permis l'espace collectif de parole. Alors à qui, Antoine, Olivia, à vous de voir, on se voit pas, donc c'est quelqu'un qui commence.
Bah, peut-être avant de dire comment est-ce que l'espace collectif de parole il a permis de sortir un petit peu de la situation dans laquelle on était, on peut d'abord se dire que une des premières réactions qu'on a eues quand ce confinement a été prononcé, ça a été de se replier un petit peu sur nos actions, minimales. Il fallait absolument maintenir une certaine partie de l'activité pour Antoine et pour moi, c'était d'assurer de la formation. Et donc on a laissé partir toute la dimension éducation populaire de qu'on associe d'habitude à la formation, c'est-à-dire associer des militants et des militantes au contenu, aux interventions, le travail avec les partenaires sur le territoire, faire en sorte que les stagiaires puissent sortir, on va dire, de l'espace de formation. Et on s'est un petit peu replié sur nous-mêmes pour maintenir l'activité minimale.
Ouais. Donc ça, c'est un réflexe, on va dire, presque logique. C'est-à-dire que en plus, il y avait l'appropriation de nouveaux outils liés à la formation à distance, donc on s'est rempli là-dessus. Et c'est quelque chose qui a été constaté en dehors des CMA, c'est-à-dire que dans les maisons de quartier, les centres sociaux, il y a eu un premier réflexe déjà d'organiser son confinement et puis après d'aller sur le numérique, d'essayer de maintenir un minimum de liens à travers le numérique, mais en oubliant toute la partie relationnelle physique et l'impact que ça pouvait avoir. Et du coup, là, au bout de quelques jours, vous avez lancé un espace d'échange. Comment ça s'est passé?
Vas-y. Okay. Non, dans un deuxième temps, on s'est dit, à partir de ces outils numériques qu'on a commencé à prendre un peu en main, effectivement, on s'est dit, faut qu'on retourne chercher le lien qui, d'habitude, nous anime, on va dire, au quotidien dans ce qu'on fait. On a d'abord remis en route ce lien par les outils numériques, téléphoniques, et c'est au fur et à mesure qu'on a recommencé à
à prendre contact avec les personnes avec son travail d'habitude, on a commencé à partager des constats et qu'on s'est dit, bah là, c'est très bien qu'on se retrouve et puis qu'on sera tous un petit peu ce que chacun nous dit et puis quel genre de contact, avec qui on est en contact et qu'on partage des informations de ce que ces personnes-là nous disent de ce qu'elles disent. Voilà, ça c'est un peu le point de départ de dire, ok, on partage les informations qu'on a pour nous permettre de comprendre la situation à plus grande échelle que ce qu'on vit chacun de nous individuellement.
Et je pense même sur les premières réunions, les deux objectifs un peu qu'on se disait, c'est ça, il y avait, on s'est dit, bon, on va faire un état des lieux de quelles pratiques numériques chaque structure a mis en place, comment est-ce qu'on peut se filer des tuyaux, etc. Et on a commencé à penser l'après-confinement. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans les échanges, puisque en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait déjà qu'on arrive à penser à plusieurs la situation dans laquelle on était. Et plutôt, en fait, aujourd'hui, là, le groupe s'est réuni plusieurs fois et on n'a pas du tout commencé à aborder le post-confinement. Enfin, on est encore sur comprendre ce qui nous arrive. Et tu le disais tout à l'heure, Régis, sur comment on a été paralysé un peu au début. Enfin, je pense qu'il y a un processus dans les échanges pour permettre que déjà les gens se rendent compte que le confinement, ce n'est pas une obligation. C'est un choix politique qui a été fait. À partir du moment où c'est un choix politique, c'est critiquable et donc on peut avoir une analyse politique dessus. Et ça, c'est un processus dans l'échange. Et je pense que ça a mis un petit peu de temps avant qu'on puisse prendre cette position-là, d'être un peu critique par rapport aux orientations qui sont posées. Et je pense qu'une deuxième difficulté qui est sortie assez vite dans les échanges, c'est on est noyé par les infos. On est noyé par les infos et c'est pas facile de penser la situation. Enfin, je sais pas, je sais pas combien d'allocutions présidentielles il y a eu sur cette période-là, mais c'est beaucoup plus qu'en temps normal. Il y a des gens qui ont même reçu des SMS du gouvernement. Enfin, et du coup, tout ça, ça crée une masse d'infos qui circule dans laquelle, je pense que tout le monde est un peu perdu à dire bon, bah, ok, on voit bien que la situation elle est grave. On nous donne des consignes ou pas d'ailleurs et comment on se repère là-dedans quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est un peu ça le point de démarrage, c'est ces deux axes-là de s'autoriser à penser et de dire on peut avoir une analyse critique politique de ce qui est mis en place et il faut qu'on analyse et qu'on réfléchisse ensemble aux infos qui nous sont transmises quoi.
Ouais, je pense que ce que vous dites là, le fait d'oser, et je pense que c'est quelque chose que, par exemple, qui s'est vécu sur le groupe à penser là, qui existe au Sténia, qui a un espace d'analyse un peu de ce qu'on vit et pour construire les choses. Et effectivement, il y avait des personnes au groupe, alors c'est une douzaine de personnes, hein, mais qui s'est rendu compte que d'autres osaient sortir alors qu'eux-mêmes n'étaient pas encore sortis. Mmh. Et sans jugement, sans forcément dire il faut faire ça, c'est-à-dire que chacun a ses propres peurs, angoisses, mais ça a permis à d'autres de se dire bon, je vais me permettre quand même. C'est-à-dire que je m'aperçois effectivement que je me suis enfermé dans un truc qui m'a absolument paralysé, avec un truc un peu anxiogène, tout le monde en parle, avec effectivement, tu disais, des SMS qu'on pouvait même recevoir, et du coup, de se dire, tiens, finalement, je peux quand même oser faire des choses. Hein, je peux sortir du conditionnement dans lequel ça m'a mis.
Ouais. Puis, je crois qu'il y a un autre truc qui nous a amené à ce constat-là, c'est qu'en partageant les informations des publics avec lesquels on est tous et toutes en contact, on s'est rendu compte qu'il y a des gens effectivement qui n'étaient pas confinés, en tout cas pas aussi strictement que d'autres. Et puis, bah, comme on part aussi du principe, en général, dans l'éducation nouvelle, que si les gens ne respectent pas la règle, c'est pas par pur plaisir de faire chier et que la règle ne correspond pas à leur réalité, bah, on est venu se dire, mais en fait, pourquoi les gens ne peuvent pas la respecter, cette règle? Qu'est-ce qui les empêche d'eux? Qu'est-ce qui leur donne pas les moyens de l'appliquer? Et que là, on s'est dit, bah, en fait, on a des éléments d'explication, mais qu'est-ce que les personnes directement, elles en disent? Bah, on ne sait pas, parce qu'en fait, on les croit ça, on n'a pas d'espace pour discuter de ça avec elles. Et c'est de ce constat-là que nous est apparu nécessaire le fait de remettre en place de la rencontre et des espaces pour discuter qui soient pas en lien avec les outils numériques et téléphoniques qui ont leurs limites dans ce qu'on peut se dire.
Donc ça veut dire que votre réflexion dans le groupe, là, à un moment donné, vous a permis de passer, alors pas forcément tous à la même vitesse, mais à la réflexion, voire à la mise en œuvre, d'actions déconfiné et pas seulement numérique. En tout cas, d'émettre l'hypothèse de...
En tout cas, c'est en cours de travail. Ça devrait démarrer, je pense, la semaine prochaine sur certains quartiers. Et effectivement, du coup, c'était le constat de se dire oui, les outils numériques ne suffisent pas. Et effectivement, là, tu as raison de le dire, Régis, tout le monde a avancé à des rythmes assez différents. Enfin, tout le monde, dès la semaine prochaine, ne va pas intervenir physiquement pour aller à la rencontre de fait des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, qui sont sur des quartiers pour causer du confinement. Mais en tout cas, c'est un processus qui est en cours, quoi. Et donc, oui, aujourd'hui, ça part vers cette idée-là de dire qu'on ne peut pas faire de l'éducation populaire en étant confiné chez soi, ça ne marche pas. Oui, sur 15 jours, ça peut marcher. Ça peut marcher. En tout cas, on peut faire un pansement. Au-delà de 15 jours, ce n'est plus possible, quoi. Et je pense que c'est un des autres trucs, d'ailleurs, qui a été paralysant. En tout cas, on s'était dit dans le groupe, c'est les annonces de 15 jours en 15 jours. Ça ne permet pas de penser tout de suite sur sur la durée, quoi. Et du coup, bon, bah, il y a 15 jours, ok, on organise les 15 jours, bon, encore 15 jours, on organise encore les 15 jours. Bon, bah, au bout de la deuxième fois, tu te dis, bon, ok, c'est parti pour durer, il va falloir qu'on trouve des moyens de faire, quoi. Et je pense, dans le processus aussi, il y a eu un truc intéressant sur... en fait, la présence physique, la première nécessité qui a été pointée, c'était d'abord sur une dimension sociale, quasi humanitaire. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont dans la merde avec ce confinement. Il faut qu'on aille à la rencontre, qu'on aille discuter, etc., etc. Et une fois que cette question-là a permis d'ouvrir la porte de la question de la présence physique. Et du coup, à partir de là, on s'est aussi dit, mais en fait, c'est pas juste pour faire de l'humanitaire, c'est aussi pour construire l'analyse politique avec les gens, pour que les gens se racontent ce qu'ils vivent et construire une compréhension de la situation dans laquelle on est, quoi.
Dans le processus, il y a quelque chose qui est un peu similaire à ce qui s'est vécu sur Nantes et sur Totoro. Bon, sauf que là, ce n'est pas parti d'un groupe, c'est plutôt parti d'une interpellation d'une habitante, mais une habitante qu'on connaît parce qu'elle était en stage de GEPS avec nous, sur il n'y a plus personne sur le quartier. Tout est fermé, la maison de quartier est fermée, la mairie de quartier est fermée, il n'y a plus de Super U. Et à la limite, sur la première chose qu'on a apportée, effectivement, quand on parle d'humanitaire, il y a l'humanitaire au niveau bouche, mais il y a aussi tout ce qui est photocopie et entre autres les attestations sportives. Donc les gens pour se les procurer comme ils faisaient, et qu'au tout départ, ce n'était pas ce que le Super U qui faisait les photocopies pour les gens. Ce qui était quand même une aberration. Et donc là, on a été interpellé, en fait, c'est bien de dire, mais est-ce que vous ne demanderez pas de donner un coup de main pour faire des affichages en bas d'immeuble sur les gestes de prévention en plusieurs langues, est-ce que vous ne feriez pas de la distribution des attestations de sortie? Donc effectivement, c'est d'abord commencer par peut-être les besoins un peu primaires, qui est celui de manger, puisque la relance de la MAP aussi qui a été faite, celui de solidarité alimentaire pour certaines familles, et puis le droit de sortir, quoi. D'abord commencer par ça.
Peut-être on peut ajouter qu'en parallèle, il y a deux autres trucs au moins que je repère qui se sont lancés très rapidement, qui étaient le fait de lancer un blog qui permet de partager des témoignages et des réflexions sur ce qui se vit. Et du coup, j'ai l'impression qu'il s'est lancé quand même très dans la première semaine de confinement. Et puis il y a cette radio, quoi, qui était dans la même logique. Je me dis, c'est quand même aussi deux espaces.
Partager des analyses.
Ouais. Et d'essayer de se faire collectif différemment et du coup de pouvoir maintenir du lien. Et ce qui fonctionne plutôt de manière assez intéressante, parce que là, on a atteint plus de 100 personnes différentes qui ont participé directement à la radio. En un mois, c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, ça a fait, en tout cas, des espaces de réflexion et de construction de collectif. Voilà, dématérialisé, mais quand même, on se retrouve et on fonctionne ensemble sur un projet commun, quoi.
Ce qui est vrai, alors après, avec une dimension beaucoup plus large sur le territoire.
Oui, c'est sûr.
Tu voulais réagir?
Ouais, parce qu'effectivement, c'est... dans les échanges qu'on avait dans le groupe, je pense, c'est un groupe de militants et d'éducation populaire, militante. Chacune avec les outils qu'il avait essayé de construire des outils comme ça numériques sur Nazaire. Il y a une radio associative à la tribu où il y a déjà des choses qui se faisaient, tout ça. Le constat, enfin, j'ai l'impression que la marche, en tout cas, qui était un peu plus longue à passer ou à réfléchir pour tout le monde, c'était de se dire, mais on le sait, il y a en France une fracture de l'accès au numérique, enfin, et de l'accès et même de l'utilisation. Et du coup, c'est de se dire, en fait, là, aujourd'hui, si ça dure, on peut pas, en tout cas, on peut pas rester que sur ces outils-là. Ils sont nécessaires, mais il va falloir penser une présence physique qui est complémentaire aussi à ces outils-là.
Oui, carrément.
C'est ça aujourd'hui le cheminement avec du coup ce qui se prépare pour en tout cas pour la semaine prochaine. C'est ça, c'est un tour sur les différents quartiers avec l'idée déjà de faire un peu un état des lieux, parce qu'effectivement, il y a les habitants, les jeunes avec lesquels on est en contact sur des outils numériques. Et après, il y a toutes les personnes les personnes n'ont plus d'infos, n'ont plus de nouvelles, ça passe par d'autres supports. Et du coup, il y avait ce envie-là, en tout cas, de se dire, mais voilà, il va falloir qu'on renoue un contact, quitte à ce que ce soit pour raccrocher les gens à des pratiques numériques. Hein. Enfin, il ne s'agit pas de dire... on va pas se mettre à faire des grandes réunions ou des assemblées générales en bas des tours, mais en tout cas, de se dire... Ou être présent aussi pour inviter les gens sur ces espaces-là, accompagner les gens à cette utilisation-là. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu ça le cheminement là aujourd'hui où on en est.
Le cheminement, il arrive avec une idée fondamentale qui est de dire la relation sociale, la relation humaine, la relation physique, elle est vitale. Hein, parce qu'on nous dit, il faut tout arrêter sur ce qui est vital. On maintient l'alimentaire, on maintient la santé, mais le reste, la police aussi, ça va être oublié. Et le reste, effectivement, la relation humaine qu'il peut y avoir entre des animes et des jeunes, des moins jeunes, etc., ça, c'était pas classé dans le vital. Donc, du coup, on se renferme, etc. Et là, du coup, c'est un peu l'idée, mais qui est dans le texte, hein, que tu es en train de se construire, qui est comment on peut déconfiner l'éducation populaire, comment on peut déconfiner l'animation socioculturelle. Et donc là, vous arrivez un peu de collectif à finaliser un texte un peu pour poser des choses entre soi, mais aussi poser des choses avec la collectivité, avec les institutions. Vous pouvez en dire plus de ce texte?
Avant de passer un peu plus le texte et puis on peut faire la lecture, je voulais juste rajouter un truc sur ce groupe, c'est de dire qu'on a essayé de réfléchir les choses à partir des informations qu'on avait, sans se demander individuellement qui de nous s'autorisait quoi avec le confinement, ou qui de nous se sentait capable de quoi en termes de sortie et d'aller à la rencontre du public. Et c'est bien parce qu'en mettant en commun nos réflexions, on s'est dit, on voit bien qu'il y a des gens pour qui la relation sociale elle est nécessaire et qu'on a, nous, en tant qu'association d'éducation populaire et militants d'éducation populaire, quelque chose à jouer là-dedans, à construire là-dedans. C'est que dans un second temps qu'on s'est dit, maintenant, on est tous dans des équipes. Et dans ces équipes-là, même s'il y a un consensus autour de la nécessité d'y être, chacun et chacune ne va pas forcément avoir envie de le faire. C'est important de dire qu'on peut partager le point de vue politique, mais par contre se laisser la liberté de l'organiser dans nos équipes en se disant, peut-être que tout le monde ne veut pas y aller, ne va pas pouvoir y aller, et de réfléchir aux moyens dans un second temps.
Oui, donc du coup, de ne pas être dans la culpabilité.
Exactement. Okay. Et de ne pas être dans la comparaison non plus de si je m'autorise quelque chose que toi tu ne t'autorises pas, avec quelque chose qu'on a entendu à plusieurs moments depuis le début du confinement, quoi. La question d'une dénonciation des voisins qui s'autorisent quelque chose que moi je ne suis pas autorisée, enfin voilà. De sortir un petit peu de cette position.
Et je pense un autre truc qu'on n'a pas encore dit non plus, c'est que, la source Saint-Nazaire, Airbus a réorganisé très rapidement la reprise du boulot pour. Les gens qui bossent à Airbus, les chantiers, ils ouvrent lundi prochain pour l'ensemble des salariés, et qu'il y avait un espèce de décalage aussi comme ça qui était perçu par pas mal de gens entre, il faut qu'on reste confiné sur tout ce qui est, on va dire, la relation sociale, là, ce que tu disais, Régis, et la dimension un peu politique d'éducation populaire, et par contre, pendant ce temps-là, on trouve les moyens pour que les grandes entreprises, les secteurs économiques qui sont jugés clés, redémarrent. C'est là aussi où ça donnait un peu de motivation au niveau du groupe de se dire c'est du foutage de gueule quoi. Enfin, on peut pas se dire que dans les grandes entreprises c'est bon, on a trouvé les moyens, mais pour des choses qui seraient des activités d'éducation populaire, non c'est pas possible, c'est secondaire, restez chez vous quoi.
Ok, du coup on passe à la lecture du texte.
Donc on a appelé ce texte les fractures du confinement. À l'annonce de la fermeture des établissements scolaires et des autres lieux recevant du public, nous avons très majoritairement organisé le télétravail et mis en place des outils pour maintenir un contact avec les publics, et avec les militants et militantes engagés pour faire vivre l'éducation populaire. Nous sommes convaincus de la nécessité d'organiser à grande échelle la lutte contre cette pandémie et nous appliquons et diffusons les mesures nécessaires, traduction et diffusion des gestes barrières, relais des informations, élargissement des réseaux d'entraide, etc. Les mesures de confinement prononcées s'allongent semaine après semaine et nous sommes obligés de constater que le hashtag « Restez chez vous » n'implique pas les mêmes choses pour l'ensemble de la population, voire est impossible pour certaines et certains. Aujourd'hui, nous nous alarmons de la situation de nombreuses personnes, tant au niveau de la protection sanitaire que de la situation sociale. Les fractures se creusent et elles sont de différents ordres. Nous prêtons une attention à la santé des corps. Or, nous ne pouvons pas réduire le système de santé à sa dimension de soins du corps et nous devons l'articuler avec le soin du psychique et du mental. La continuité éducative, dont on a tant entendu parler, a mis à jour le trou béant de la fracture numérique, tant au niveau de l'équipement que de la capacité à utiliser ces outils pour communiquer, s'informer et organiser sa vie ou sa survie quotidienne ou travailler.
Oui.
Je pensais que ça avait coupé. Je suis désolée.
Non, non, non. Pas de souci.
La fracture économique et sociale est elle aussi flagrante à travers les récits de confinement d'une partie de la population qui en profite pour faire une pause et celle qui se sent enfermée, voire entassée dans des situations, aggravant parfois des situations de violence intrafamiliale et des difficultés pour subvenir à ses besoins. Enfin, une fracture politique se dessine également autour de moyens que nous avons pour comprendre et penser la situation que chacun et chacune de nous vit, à quelles informations nous avons accès et comment s'y repérer. La situation sociale et politique nous amène à penser qu'il y a un immense besoin d'éducation populaire après le confinement, mais aussi dès maintenant. Il faut permettre à chacun et chacune de comprendre ce qui se passe pour elle et lui, mais aussi pour les autres, afin de pouvoir construire la suite sans oublier personne. Pendant le confinement, les outils numériques ne peuvent se suffire. Pour dépasser la peur et la violence et pour construire la suite, il nous semble nécessaire de pouvoir poursuivre notre action au-delà du seul lien téléphonique et numérique, en organisant différentes modalités de rencontres avec les publics, tout en s'assurant de la mise en place des mesures permettant la sécurité physique des personnes en période de pandémie. Les équipes d'animation assurent déjà cette présence depuis plusieurs semaines à travers l'ouverture des accueils de mineurs pour enfants des soignants. Notre présence physique est d'autant plus nécessaire que nombre de personnes sont touchées par ces différentes fractures en même temps. Les équipes d'animation doivent pouvoir assurer une présence physique complémentaire de nos présences numériques. Cette présence doit bien sûr prendre en compte les données scientifiques dont on dispose sur cette pandémie. La forme de ces présences est en train de changer. Des maraudes, dans un premier temps, permettraient de renouer le contact avec une partie des populations, d'accompagner une compréhension politique de la situation. La présence physique dans certains quartiers ne peut être qu'une seule présence répressive. L'organisation d'une présence physique dans des secteurs économiques jugés clés est mise en place. Elle devient urgente à mettre en œuvre dans le champ de l'éducation populaire. Nos propositions sont donc l'instauration de maraudes pour mesurer les besoins et créer des temps d'échange, impulser, quand ça n'existe pas déjà, des solidarités par immeuble, par rue, avec des affichages, maintenir de l'économie de circuit court avec proposition d'alimentation de fruits et légumes, diffuser des documents, proposer des échanges qui permettent de comprendre et analyser la situation, lancer des permanences sociales. L'après-confinement. Sans connaître la date de fin de confinement, nous sommes déjà en réflexion sur les actions pour sortir du confinement. La situation économique que crée le confinement pourrait tenter certains et certaines de ne pas juger prioritaire les vacances et les loisirs. Pour autant, en sortie de crise, ces espaces de rencontre et d'échange avec des personnes autres que celles de son quotidien sont indispensables. Si les formes doivent sans doute se réfléchir, le nombre de personnes autorisées à se rassembler, par exemple, nous ne devons pas sacrifier ces rencontres sous couvert de mesures économiques ou d'efforts de guerre. En tant qu'acteurs de l'éducation populaire, nous participons à ce que tout le monde construise une compréhension des événements qui s'appuie sur le partage de vécu et l'exercice d'une critique quant aux informations qui circulent. Et ce travail doit se démarrer maintenant, se poursuivre à l'issue du confinement et être soutenu par les différents partenaires publics. Nos propositions pour cet après-confinement sont un rapprochement des communes et des associations d'éducation populaire et de jeunesse afin de relancer une présence physique plus importante pour répondre à des besoins nouveaux, permettre cet été de vivre de réels temps de loisirs et de vacances. Il convient sur la période de juillet et août de ne pas refaire l'école après l'école. Il sera toujours temps de mettre en œuvre ces actions en septembre. Mais les enfants, jeunes et adultes, ont besoin d'un temps de vacances, de rupture, surtout après la période anxiogène que nous vivons. Et enfin, le maintien d'une politique de loisirs, de vacances et culturelles ambitieuses à l'issue du confinement. Cette politique sera bien sûr à construire selon les normes sanitaires en place. Nous souhaitons la mise en place d'espaces de concertation pour la construction de ces politiques. Ambitieuse car le gouvernement investit actuellement des milliards dans le maintien de l'économie, mais annonce d'ores et déjà une politique publique d'austérité pour 2021 et 2022. Il nous semble important que l'éducation populaire, entre autres, ne subisse pas les coupes à venir. Voilà, et c'est signé des militants et militantes, c'est des professionnels autour de Saint-Nazaire.
Du coup, c'est un texte qui pose, alors j'imagine qu'il reflète un peu l'ensemble des échanges autour des différentes réunions que vous avez eues, et l'ensemble de la pensée que vous avez pu avoir autour de 3-4 réunions virtuelles.
Oui.
Et sur la fin, ça pose une question importante qui devrait se poser un peu partout, c'est la question de la posture et de la pratique qu'on peut avoir dans la pratique de la distance, la pratique dans ce contexte un peu sanitaire, de comment faire. Alors effectivement, ça pose la question du nombre, et ça, plutôt au Sénat, ça va nous arranger, puisque ça correspond à ce qu'on défend. La question de loisirs de 400-500 enfants, c'est pas un centre de loisirs très, très à dimension humaine. Et donc, du coup, ça pose plein de choses sur la question du nombre, mais aussi sur ce terme qui est complètement mauvais, mais cette distanciation sociale, comment ça peut se faire dans la pratique. Est-ce que vous avez commencé à en échanger où est-ce que vous en êtes et échanger dans le groupe ou dans d'autres espaces, je pense entre autres avec les gens qui accueillent aujourd'hui dans les centres de loisirs avec très peu de consignes, en tout cas ministérielles. C'est-à-dire que le ministère de ce côté-là est assez silencieux en disant quelle pratique il faut avoir. Qu'est-ce que vous en êtes où là, dans la réflexion là-dessus?
Effectivement, il y a un autre groupe de travail là, qui s'est mis en place avec des gens qui sont déjà actuellement dans l'accueil. Depuis le début, là, les gens qui accueillent des enfants de soignants et de fonctionnaires. Effectivement, ce qui ressortait des échanges qu'on a eus au sein de ce groupe-là, c'est l'absence de consignes, ce que tu disais, Régis, hein, c'est-à-dire à part se dire qu'il ne faut pas des groupes de plus de 10, il n'y a pas beaucoup de consignes. Donc après, chacun y allait de sa compréhension individuelle et des informations que les gens glanaient sur les médias. Donc ça a suivi ce qu'on connaît tous, hein, dans le début où on dit non mais les masques c'est pas utile, alors que dans certaines collectivités ils avaient déjà le moyen de mettre des masques, mais comme ce qui était communiqué, se dire c'est pas important les masques, on les met pas, puis après c'était important, donc les gens se reposaient la question de est-ce qu'il faut les mettre ou quoi, et aujourd'hui ce qu'on voit en tout cas pendant le confinement, c'est que chacun se construit un peu un arrangement avec ce qu'il comprend, ce qu'il entend à gauche, à droite, et quelque chose qui lui permet de lui sembler être en sécurité ou mettre en sécurité le public avec lequel il travaille, quoi. Mais cette compréhension-là, elle est extrêmement subjective, quoi. Elle dépend de son propre rapport à la maladie, à la mort de chaque personne. Elle dépend aussi de, ça c'est un autre truc qu'on regardait, de à quel moment les gens se sont posé la question d'intervenir physiquement auprès du public. Les animes qui sont mobilisés depuis le début, ils ont un peu la tête dans le guidon, et quand on a fait du croisement entre ces animes-là et les personnes qui se posent la question la semaine prochaine là, d'aller sur les différents quartiers, l'écart était assez important. Les gens qui ont cheminé pendant 4 semaines avant de se dire on va y aller, ils sont en train de penser plein de gestes barrières, de manières de faire, etc., etc. Là où les personnes mobilisées dès le début, ils sont allés parce que de toute façon il n'y avait pas le choix, et je dirais les protocoles sont souvent moins aboutis que les gens qui sont en train de les mettre en place maintenant, quoi.
Ça pose aussi la question du masque, par exemple, ça pose toute la question, mais comme le fait de se toucher, un enfant qui a besoin d'un câlin, la question du masque, est-ce que je parle aux enfants avec le masque, à quelle distance je mets le masque, comment on se parle, est-ce qu'on arrive à se comprendre, ça limite aussi toute l'expression non orale, hein, corporelle, en tout cas ça en limite les aspects. Donc ça c'est des choses qui touchent tous les groupes d'animes.
C'est la question qu'on...
D'anime, d'ailleurs.
Ouais, c'est la question qu'on évoquait avec Marie qui travaille dans une MEX, une maison d'enfants à caractère social, vendredi à la radio, où elle disait, par exemple, dans son équipe, ils ont décidé de ne pas respecter les mesures de distanciation sociale avec les enfants en partant du principe que le besoin affectif, c'était un besoin et qu'il fallait y répondre d'autant plus avec des mômes qui sont confinés au foyer et qui n'ont pas vu leurs parents depuis plus d'un mois, etc. Quoi.
Sur le masque, il y avait trois choses qui se disaient. Effectivement, il y avait des gens qui disaient « Ok, on peut mettre un masque, mais peut-être qu'on ne le met pas dès le début. Enfin, on se présente plutôt à distance sans le masque et on met le masque au moment où on est en contact, en expliquant pourquoi, mais ce qui permet de voir une première fois déjà le visage des gens sans le masque. En tout cas, il y a des gens qui l'utilisent comme ça, il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout, hein, effectivement, aujourd'hui, en disant « C'est pas possible avec les mômes ». C'est une catastrophe. Il y a des gens qui se disent bon, on va essayer de faire des masques un peu rigolos, masques en tissu avec des tissus qui font un peu moins peur que les masques tout blancs. Il y a plusieurs pratiques en tout cas aujourd'hui sur cette question des masques. Comme sur les autres choses, il y a des gens qui ont des masques, des gants, tout ça, et puis qui se disent en fait je peux pas accueillir le public. Comme si les gens arrivaient dans un hôpital, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que je vais créer du lien. Après, une autre question que ça venait poser, c'était quelle cohérence on peut avoir au niveau d'un même territoire quand j'accueille des gamins qui ont 5, 6 ans ou 7 ans ou même plus vieux, hein, et qu'il y a des règles de distanciation sociale qui sont posées de telle manière à l'école, qui sont posées de telle manière par les parents, qui sont posées de telle manière au centre de loisirs. Ça crée un peu de confusion aussi, et sans doute que... Alors là, autant ce que renvoient quand même pas mal les animateurs et les animatrices qui sont mobilisés dans l'accueil, c'est que c'est beaucoup des enfants de soignants qui sont très au fait de la pandémie, qui sont très au fait des gestes barrières, etc. Mais au moment où, là on est plus sur le post-confinement, au moment où on va rouvrir les accueils un peu plus largement, s'il n'y a pas un minimum de cohérence qui est pensé entre les différents espaces éducatifs que fréquentent les gamins, ça va être un gros bordel pour faire tenir ces gestes barrières et ces trucs de distanciation sociale qui sont pas du tout une habitude. Enfin,
de toute façon, je pense que c'est un bon bordel. je pense que ça va l'être, effectivement, parce que on a des pratiques complètement variées. C'est-à-dire que Claude, qui fait cet exemple, avec Marie. Donc on a eu d'autres exemples où les gens dans les endroits se mettaient en combinaison totale. Hein. Le pantalon, la blouse, le masque, etc. etc. Donc, effectivement, on va avoir des pratiques complètement différentes et sur des caractères complètement subjectifs. Et donc, du coup, forcément, ça va créer certainement des conflits. Parce que je ne vois pas comment on va être capable de créer des cohérences éducatives en si peu de temps. C'est une opinion. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces points-là ou...
Moi, j'aurais bien aimé qu'on revienne... Pardon, Antoine, vas-y.
Vas-y, vas-y.
J'aurais bien aimé qu'on revienne sur, dans votre texte, là, vous amenez la question des temps de vacances et des temps de loisirs. Je ne sais pas si on a des chiffres aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'ai déjà des échos de potes qui devaient prendre des séjours en juillet et qui sont annulés. Du coup, qu'est-ce que, notamment cet enjeu-là, il est assez questionnant et assez fort. Ouais, des séjours de vacances. Ouais.
Alors moi, je sais pas tout ce qui. Par contre, ce que je repère, c'est au moins sur deux villes importantes de la région, Nantes et Le Mans. Les séjours sont annulés.
Marseille aussi, du coup, a priori.
Alors après, j'ai pas été hors région, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs villes qui commencent à prendre des mesures d'annulation des séjours en disant on maintient les centres de loisirs, mais on ne permet pas la nuitée. Et je pense que ce sera une réflexion même à avoir sur les bases de loisirs qu'on gère, parce que je pense que je crains malheureusement qu'il y ait une annulation. Un maximum de séjours, on regarde les nuitées.
Peut-être pour... je me dis, il y a des personnes qui nous écoutent qui peut-être ne travaillent pas dans l'éducation populaire et dans l'animation. Du coup, on pourrait juste redire que quand on parle de séjours de vacances, la plupart du temps, les gens parlent de colo. Enfin, voilà. Et que notamment, quand on se pose la question des villes qui sont organisatrices de séjours, et c'est parce que il y a un certain nombre de villes qui sont encore organisatrices, et du coup, c'est pas des assos ou des entreprises qui organisent les séjours de vacances, et qu'a priori, c'est elles qui commencent d'abord à annuler, sachant que...
Ou c'est des assos, les trucs.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, moi j'ai l'impression, en tout cas, sur le territoire de Saint-Naz, que pour l'instant, on n'a pas encore entendu d'annulation, si ce n'est les séjours à l'étranger. Mais pour l'instant, en fait, les organisateurs avec lesquels on est en lien ne sont pas fait part d'annulation de séjour.
Mais où est-ce qu'ils en sont rendus dans la communication des séjours et dans les inscriptions? Parce que je pense que parfois, ça va être l'organisateur qui va se développer, et puis rapidement, on va voir, ça va être le coût d'inscription. Parce que je pense qu'un certain nombre de familles vont avoir trop peur. Je veux dire, mais c'est pas possible, ils vont dormir dans la même chambre, ils vont dormir dans la même tente. Qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que la question, malheureusement, anxiogène rajoutée par toute la communication et autres, va y contribuer. Quoi.
Peut-être que ça aurait de l'intérêt, par exemple, on a un lien assez fort depuis pas mal d'années avec la ville de Saint-Denis, qui est organisatrice de séjour. On pourrait peut-être les contacter pour savoir où ils en sont sur cette réflexion-là. Notamment parce qu'ils ont une politique de départ en vacances des mômes et des jeunes sur le territoire qui est assez forte et que c'est un gros organisateur. Peut-être je vais les contacter.
Est-ce qu'il y a d'autres points peut-être qu'on n'aurait pas abordé sur cette question? De toute façon, la question des centres de vacances, on aura l'occasion d'y revenir.
Bah, en tout cas, la question qu'on se pose là, ça illustre, je pense, qu'on s'est dit depuis trois quarts d'heure ensemble, c'est que le risque, c'est de laisser nos choix être guidés uniquement par la peur, et que du coup, il y a une urgence à partager les points de vue pour remettre un petit peu de rationalité là-dedans sur se protéger, ok, mais ne pas céder à la panique, ça paraît essentiel.
Ouais, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Régis, sur ça va être compliqué. De se mettre d'accord sur des trucs éducatifs, enfin sur des postures, des gestes barrières ou des trucs comme ça
en cas de semaine
du confinement. Et en même temps, ça va être nécessaire que de créer des espaces de parole où, au sein de l'équipe, chaque personne va pouvoir dire ses peurs, toi, de dire bah, moi je suis flippé de ça. Et que oui, on le voit depuis le début, les flips, elles sont pas les mêmes pour tout le monde. Et en fait, c'est à la fin. Il va falloir qu'on arrive à faire en sorte que les gens ils puissent s'en causer sans être dans une dimension culpabilisatrice. Enfin, toi, là, c'est aussi un des échanges qui avait pas mal ces derniers temps dans le fait de reprendre la présence physique sur les quartiers, de se dire, en fait, il ne faut pas que, parce que je ne me sens pas d'y aller, je culpabilise ou quoi, et que chacun chemine à son rythme là-dessus. Quoi. Enfin, et puis chacun a des raisons différentes. Ils peuvent s'entendre de dire, bah, moi, j'ai peur, je préfère avoir... des masques, des gants ou je sais pas quoi, et puis d'autres gens qui disent bah non, ça va. Enfin voilà, il y a bien un rapport très individuel à ce truc-là, et je pense qu'on l'entende et qu'on permette chacun d'exprimer quoi.
Et qu'on imagine des formes qui permettent à chacune de prendre la place qui lui correspond quoi. J'ai l'impression, enfin, mais ce que vous portez dans le texte, quoi, de se dire il y a plein de trucs à faire et qu'il va falloir qu'on s'en parle et qu'on s'autorise à faire pas les mêmes choses et pas de la même manière et en prenant en compte l'ensemble des situations. Quoi.
Je propose d'arrêter là et puis de passer à la deuxième partie de l'émission. Flo, à toi la parole.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Antoine et Olivia. C'est chouette d'avoir de vos nouvelles et de savoir ce que vous faites sur Saint-Nazaire et autour. Je vous propose de rester avec nous pour parler zététique parce que c'est cool. Et je crois que Manu, tu nous as préparé des petites choses sur la question du complot.
Il y a un complot qui provoquera des événements terrifiants.
La zététique
peut-elle casser des briques?
Quoi?
Non, je sais.
Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs.
Le savoir est une arme d'instruction massive.
Ouais, tu calmes.
Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire.
Une épitaphe pour quelques copains.
Non, je sais.
disais, complotisme et conspirationnisme, c'est la deuxième partie des émissions sur le sujet. Dans la première partie de l'émission, on était plutôt allé sur essayer de comprendre d'où naissent les théories du complot et essayer de se donner quelques précautions en termes de posture au préalable à la discussion avec une personne qui paraît être une tenante de. On voudrait, enfin, voilà, je sais pas, un travail qui est fait tout seul, même si je suis tout seul là, je me suis lâché par mon collègue. On voudrait d'abord faire quelques compléments à ce qu'on avait dit autrefois, et après passer un peu à d'autres aspects. Les deux compléments qu'on voulait faire, le premier, il est sur c'était de dire que, on a raté un élément, je pense, la dernière fois, c'était de dire que l'appétence que certaines peuvent avoir pour la théorie du complot vient aussi du fait que ce sont des simplifications extrêmes du réel. Et en ça, elles sont rassurantes. On peut tout expliquer avec une thèse, une même mécanique, un même hypothèse. C'est leur force, parce que du coup, elles sont très épuisantes, elles sont rassurantes, etc. Mais comme dit leur nom, c'est aussi leur extrême pauvreté, c'est-à-dire que expliquer tout fait social par les complots, ça ne porte pas très loin. Sur la forme, le deuxième complément qu'on voulait faire, c'était de redire que les outils qu'on va utiliser là, on ne les a pas expérimentés énormément. Pas tous, pas dans ce contexte précis qui était, donc je le rappelle, une interpellation d'animateurs et d'animatrices qui bossent en maison de quartier, en maison de jeunes, etc. Et qui disaient, suite au confinement, on va retrouver les jeunes avec on a peur que ces personnes, que ces jeunes soient approuvés de toutes les communautés pour circuler sur les réseaux sociaux, etc. On en voit déjà circuler. Et on a peur de se sentir un petit peu démunis face à ça. Donc c'était en réaction à ça. Donc de dire qu'on n'a pas forcément expérimenté dans ce contexte-là pour voir qu'est-ce qui vous paraît pertinent dans ce qu'on raconte. On voulait dire aussi que ça vaut le coup d'écouter la première partie d'émission, sinon on passe vraiment à côté de pas mal de choses que je ne vais pas reprendre, mais notamment les questions de posture, elles sont assez importantes. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on se propose de faire, c'est d'essayer de lister quelques mécaniques internes de théorie du complotisme, quelques mécaniques de raisonnement, voilà, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et puis, dans un deuxième temps, essayer de se donner quelques pistes, quelques outils utiles dans cette démarche d'aller discuter avec les gens qui adhèrent à une. Assez humblement, c'est pas magique. Je vous propose, les copains de qui sont avec moi sur l'émission, de ne pas hésiter à intervenir entre deux mécaniques, soit pour faire un complément, pour ajouter un truc, une anecdote. Parce que, et vu que je suis tout seul à raconter ça, ça reste aussi un petit peu mauvais. Donc, les différentes mécaniques, alors elles ne sont pas exhaustives, mais on va essayer de s'en lister. Une des mécaniques qui amène à des théories, c'est de penser un événement à partir de la question à qui profite-t-il. Alors, si c'est effectivement important de s'intéresser à divers intérêts que différentes parties ont à tirer d'un événement, ça ne peut pas être la première question qu'on se pose. Et ça ne peut pas être la seule. Ça ne peut pas être la première parce que c'est. Sinon, on s'expose au risque d'occulter pas mal de faits. En fait, on cherche un coupable, caché, et il occulte pas mal de faits qui sont assez prouvants, qui nous amènera à penser aux choses, parce qu'on se demande simplement, c'est la seule question, et ça ne peut pas, c'est pas celle qui nous amène à tous les coups, aux responsables. On peut prendre l'exemple de Noam Chomsky, qui déclarait, dès le 11 septembre 2000, déclarait que toutes les puissances du monde, de toute façon, chercheront à tirer profit de la situation. Et que donc, cette question, elle n'est pas pertinente pour trouver des responsables. Pas suffisante. Et de fait, il semble que pas mal de puissances du monde en ont tiré profit. Voilà. Une deuxième mécanique, ça consiste à plus ou moins délibérément ignorer des faits. Alors, ignorer ou occulter des faits. Ignorer des faits, on va prendre comme exemple, par exemple, prendre Il y a pas mal de personnes qui vont affirmer à propos des missions Apollo, et certains photos estiment qu'elles n'ont pas eu lieu, des missions spatiales posées sur la Lune. Eh bien, il y a pas mal de
gens. Des pieds.
Tu dis, pardon ?
Des pieds,
oui, aussi tout un tas de merdier. Donc, pas mal de personnes affirment que les seules archives dont on dispose à propos des missions d'Apollo sont les quelques photos claquées avec le drapeau, des ombres qui sont bizarres, il n'y a pas d'étoiles.
Le drapeau qui flotte.
Comment tu dis ?
Le drapeau qui flotte.
Et donc, et de dire que c'est les seules traces qu'on a. Alors que, il suffit de se renseigner un tout petit peu pour s'apercevoir qu'on dispose d'une quantité énorme de photos, d'enregistrements radio, de vidéos pour chacune des missions et qu'elles sont en libre accès. Et donc, ignorer les faits, dans cette situation-là, d'où ça vient, peut-être du fait que j'ai cru comprendre quelque part cette info que je n'ai pas vérifiée, ou voir que simplement j'ai été exposé que à ces photos-là qui tournent en boucle sur les sites complotistes. Et donc, j'ai fait des conclusions moi-même, c'est-à-dire, puisque j'ai tout le temps ces sites arriennes, ça veut dire qu'on a tout ça. Bon, du coup, pas consciemment, je peux ignorer les faits, et je peux aussi en occulter, c'est-à-dire délibérément choisir d'ignorer tel ou tel aspect qui ne cadre pas avec ma thèse. Alors, on a un exemple assez spectaculaire avec ce qu'on appelle le récentisme ou la nouvelle chronologie. Donc, c'est des gens qui vont estimer que l'histoire est une construction à ce point qu'on a rajouté 500, 800 ans de l'histoire, artificiellement. Alors, pour diverses raisons, il y a différents degrés là-dedans. Et notamment, on va avoir des gens qui disent que tout le bas Moyen-Âge n'a pas existé, donc la période de la vie. Et notamment qui disent qu'on n'a aucune trace archéologique de cette période. On n'a pas de monnaie, on n'a pas de... voilà. Et alors que c'est tout à fait établi. J'ai juste choisi délibérément de dire non, ça compte pas. Donc, ignorer au plus des faits. On a une petite mécanique qui est un petit peu retorse, qui consiste à avancer une hypothèse. Alors, par exemple, le spécialiste de ça, c'est Thierry Messant, qui a écrit pas mal de bouquins sur comment il n'y a pas d'avions qui sont atterris dans le Pentagone et que les avions c'était pas Ben Laden, mais probablement pas Al-Qaïda, mais probablement plutôt un autre. Et donc lui, c'est la mécanique qu'il utilise beaucoup dans son bouquin, c'est le fait d'avancer une hypothèse en prenant plein de pincettes, en donnant plein de sources, quelque chose d'assez établi, voilà, un peu... on peut, à partir des sources que je vous donne, supposer que peut-être, alors à ce moment-là, on peut déduire ça. Et puis, quelques paragraphes plus loin, cette hypothèse devient une certitude, un fait établi. Et donc, construire tout un raisonnement en enchaînant ce genre de choses, bah, c'est assez redoutable, parce que, en fait, c'est assez dur de mettre le côté. Quand on le lit, c'est assez bien fait. On a une autre petite mécanique qui consiste à... c'est un double mouvement. À la fois, on va surestimer l'ennemi et à la fois, on va le sous-estimer. Alors, on va surestimer l'ennemi en se disant que, puisque l'ennemi, ce sont des puissants qui agissent dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, voire des sauriens, des extraterrestres, et bien, ils sont capables de nous cacher que, de nous cacher ceci. Donc, on les surestime et donc, c'est assez paralysant comme... deux phénomènes évoluent ensemble. Il y a un phénomène qui augmente, on va avoir d'autres phénomènes qui augmentent aussi. Donc le fait qu'ils évoluent en même temps ne veut pas dire qu'ils sont liés par l'un cause l'autre. Il peut y avoir d'autres raisons, on en a parlé dans notre émission sur les biais économiques, sur les biais de raison. Je ne reviens pas spécialement dessus, mais là où on trouve ça pas mal dans les théories complotistes, c'est dans cette idée qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que s'il y a une corrélation, c'est qu'il y a une causalité, il ne peut pas y avoir de coïncidence. Et donc, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de. Il y a des gens qui disent que les événements du 11 septembre, en anglais ou en américain, je ne sais pas trop, on inverse, on dit c'est pas le 11-09, c'est le 9-11. Et donc, 9-11, ça fait 9-1-1, ça fait 9-1-1, c'est le numéro de la police. Et c'est pas une coïncidence. C'est tout à fait significant, ça veut dire quelque chose. Et en fait, ça correspond à une mauvaise perception des probabilités qu'on a. C'est-à-dire, on va lire a posteriori les probabilités d'un événement. On va se dire quelles étaient les chances qu'on tombe précisément sur cette date. Le 9-9-1-1. Et alors oui, elles sont de 1 sur 365. D'accord, c'est pas énorme. Mais les chances de tomber sur un nombre signifiant, au hasard, c'est quasiment 100%. C'est-à-dire que, quelle que soit la date qu'on prend, on va réussir à lui trouver à posteriori une signification. Et ça, cette mécanique-là, cette mécanique de lire à, les probabilités à posteriori, la numérologie fonctionne beaucoup là-dessus. Voilà. Donc les relations de probabilité en niant les coïncidences. Alors on a souvent aussi affaire à des conclusions qui sont irréfutables. Dans les théories du cotiste, on va trouver des théories qui tournent en boucle et voilà, qui sont irréfutables. Sa manifestation la plus courante de cette irréfutabilité, c'est le fait de rejeter les éléments, les arguments qui vont contre sa thèse, puisque ces arguments proviennent de personnes d'organismes qui sont asservis ou responsables. Du coup, elles ne sont pas valables, c'est eux qui les fabriquent. Dans le même ordre d'idée, on trouve l'inversion de la charge de la preuve. On va nous dire, prouve-moi que le complot n'existe pas. Prouve-moi que l'ONU ne manipule pas tout le monde pour faire croire aux gens qu'il manipule. Ah non. Si tu affirmes l'existence, que quelque chose se passe, que quelque chose existe, bah, c'est quand même plutôt à toi d'apporter les preuves de l'existence de ce machin. Se retrouver à prouver l'inexistence de quelque chose, c'est une situation qui est impossible en public. De faire attention à ce moment où il y a une inversion de la charge de la preuve. Et puis, on rajoute au passage que plus l'affirmation que la personne fait est extraordinaire, plus ça va nécessiter des preuves solides, extraordinaires. Si je vous dis qu'il y a un oiseau dans mon jardin, bon, ça n'engage pas à grand-chose, vous pouvez me croire un peu sur parole, je n'ai peut-être pas beaucoup de preuves à vous apporter pour que vous puissiez vous enlever. Par contre, si je vous dis c'est une licorne qu'il y a dans mon jardin, là, peut-être que vous allez demander des preuves un petit peu plus conséquentes.
Peut-être c'est... Non, je me disais, il y a un complément là-dessus qui est de dire c'est un peu le même système qu'en droit, en tout cas en droit français, parce qu'en droit, par exemple, en Angleterre, c'est pas la même chose, mais de dire c'est bien à l'accusation d'apporter la preuve que quand, si on m'accuse d'avoir cassé une vitrine, c'est bien à la personne qui m'accuse d'apporter la preuve que j'ai cassé une vitrine, parce que apporter la preuve que je n'ai pas fait ce dont on m'accuse, bah, en fait, c'est quasiment impossible. Et du coup, c'est bien ce truc-là, ça fonctionne comme ça, en tout cas le droit pénal français, de dire c'est bien à la personne qui accuse d'amener les éléments pour prouver ce qu'elle avance. Et du coup, d'où la question de la présomption d'innocence, etc. Je trouve que c'est un exemple qui permet d'illustrer un peu le truc.
Avec la limite que, parce que vous trouvez dans pas mal de moments, en fait, que on va se satisfaire d'un soupçon. Un soupçon
faisceau
d'indice.
Oui, oui.
Va nous suffire.
Un élément. Tout à fait.
Attention à la faisceau d'indice. Ouais.
Oui, je parlais juste du principe. Je ne dis pas que l'application est réellement celle-ci. Mais j'ai l'impression que le principe de droit, il s'appuie sur cette logique-là. Après, dans la pratique, de fait, on sait que ce n'est pas ça qui va se produire la plupart du temps. Quoi.
On devrait s'appliquer.
Oui.
C'est-à-dire que le faisceau d'indice ne devrait pas être un élément suffisant.
Mmh. Oui, la question de la valeur de la parole de la personne qui est accusée et de la valeur de la personne qui accuse ne devrait pas jouer. Quoi.
Ouais, ça pose plein de questions, je pense. Mais ouais. On trouve en tout cas la même mécanique. Je poursuis. Alors. Donc on va trouver des situations où les conspirationnistes. Alors je dis conspirationnistes, enfin pour écouter la première émission pour Donc les conspirationnistes s'appuient sur des éléments scientifiques parfois assez pointus. C'est vrai. Et on ne peut pas trouver un cas nier ça. Seulement ils en font un usage, ce qu'on appelle un usage ad hoc. S'en servent pas un peu comme ça. Je ne convoque pas la science et ses outils, la science que lorsqu'elle conforte ce que je cherche à montrer. Parfois, je donne une apparence scientifique en étant convaincu, bien sûr, de ce que j'avance, comme je donne une apparence scientifique à un raisonnement pourri. Et on a un super exemple encore une fois dans le livre de Thierry Messant. Alors là, je vais en dire un extrait. Parce que c'est assez... Alors, c'est un court paragraphe. Donc Thierry Messant, donc là, il est en train de démontrer pourquoi est-ce que les avions qui sont crachés dans les trous n'ont pas pu être pilotés par trois talibans formés dans le monde. C'est ces termes. Donc il dit, non seulement les pilotes ont dû régler l'altitude du crash, mais aussi positionner les appareils latéralement. La largeur des trous jumelles est de 63,70 m. L'envergure des Boeing 767 est de 47,60 m. On observe sur les vidéos que les appareils ont percuté avec précision le centre des cibles. Un simple déplacement de 55,65 m et les avions auraient manqué leur frein. À vitesse moyenne, 700 km/h, cette distance est parcourue en 3 dixièmes de seconde. Vu le peu de maniabilité de ces engins, voilà un tour de force pour des pilotes chevronnés à plus forte raison pour d'apprentissage. Donc là, on a affaire à Thierry Messant, il provoque des calculs pour dire pourquoi est-ce qu'en 3 dixièmes de seconde, c'est pas possible pourquoi est-ce que le temps de réaction nécessaire pour viser la cible est peut-être 3 dixièmes de seconde, c'est pas possible. Le truc, c'est que ce raisonnement est pourri. Alors, première chose, premier aspect qui met un peu la puce à l'oreille, c'est preuve dans le chiffre qu'il avance une précision qui est ridicule. C'est-à-dire qu'à 55,65 m, enfin, 65 cm, il aurait raté la cible. C'est ridicule. Voilà, c'est ça donne l'apparence de quelque chose de solide en donnant une précision comme ça, dans les faits d'ancrage. Et par ailleurs, le raisonnement est erroné. Avec ce même raisonnement, on peut prouver qu'une voiture ne peut pas rester sur une route. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est que l'avion va à 700 km/h. Donc, en allant à 700 km/h, il parcourt la distance de 55,65 m en 3 dixièmes de seconde. Je fais quelques secondes, c'est vraiment. Mais le truc, c'est que, par contre, cette distance-là, dans la direction dans laquelle il va, pas latéralement. Autrement dit, si on considère que. Je ne sais pas comment vous expliquer ça clairement, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs. Si je suis en voiture sur une route, et bah oui, une route en moyenne, une voie de circulation en moyenne, ça fait 3,50 m. Sur 3,50 m en voiture, c'est moins de 3 dixièmes de seconde, c'est 1, quelque chose, dixième de seconde. Et donc, je suis dessus, je crois pas. Vous voyez la logique. Raisonnement de merde. Le truc, c'est que chercher à beaucoup pénible de chercher à montrer que c'est pas vrai, c'est ce genre de raisonnement, c'est complètement impercutant, qu'une accumulation de petits raisonnements comme ça. C'était clair à peu près cette histoire?
Tout à fait.
Je sais pas si vous avez déjà vu la largeur d'une piste d'atterrissage, mais on est quand même content que les pilotes la ratent pas à chaque fois. Hein.
Ouais, c'est... Ok, ensuite on peut parler rapidement du millefeuille argumentatif, c'est en lien. Alors le millefeuille argumentatif, c'est le fait d'accumuler une série d'arguments faibles, parfois fallacieux, et en fait c'est l'effet d'accumulation qui, par fatigue de l'esprit, finit par convaincre qu'il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Il y a tellement de choses qui laissent penser que, voilà. Et c'est très efficace. C'est efficace parce qu'on ne prend pas la peine d'aller douter, on ne peut plus douter de chacun des arguments qui sont avancés. Pour aller plus loin sur ces différentes mécaniques, je vous invite à aller regarder un article sur le site du Monde Diplomatique, un article de Benoît Brévy qui s'appelle « Six principes de la mécanique conspirationniste » et donc qui reprend certains que j'ai proposés ici et qui va en explorer quelques-uns.
On vous mettra le lien sur le podcast de l'émission.
Ouais, globalement, le Monde Diplomatique, c'est en fait une recherche sur un conspirationniste. Il y a pas mal d'articles. Alors, on se proposait dans une deuxième partie d'essayer de donner quelques pistes, quelques outils dans la discussion avec une personne qui adhère à une théorie qui me semble bonne. Alors, on va essayer. Déjà, première remarque, il n'y a pas de recette magique. Voilà, il n'y a pas de. Il y a tout fait, il n'y a pas de. Qui va marcher à tous les coups. On va pouvoir essayer de se donner quelques pistes, mais. En première chose, ça pourrait être de se dire que connaître les mécaniques principales d'un raisonnement conspirationniste, c'est à faire, ça aide pour pouvoir les relever, mettre le doigt sur ce qui est foireux. Cela dit, ça demande un effort assez conséquent. Souvent, ça demande de mettre son esprit critique à plein régime et passer pas mal de temps à déguster ces mécaniques. Voilà, donc, inévitablement, ça consomme du temps, de l'énergie, et on n'a pas tout ce l'instant de cette énergie. Et par ailleurs, on peut se dire que c'est peut-être plus riche. On se remet dans la situation de Julien, un ami ou une amie qui accompagne des jeunes dans sa même carte. Bref. Et donc, il est peut-être plus riche d'embarquer ces jeunes qu'on accompagne, de les embarquer dans cette recherche pour la faire ensemble, que de bosser dans son coin la question. Et de débarquer avec une liste de petits moments qu'on va opposer. Peut-être on peut le faire aussi, mais se passer de faire ensemble ce processus-là, c'est risquer que la personne, elle n'en tire pas grand-chose à la fin, en termes d'éducation physique, en termes de... Elle va éventuellement se mettre à douter de cette théorie-là, mais elle aura probablement pas plus d'outils pour essayer de décortiquer la prochaine qui va lui tomber dans les yeux. Alors, deuxième piste, on peut repartir de l'exemple de Messant et son savant calcul des vitesses des avions, etc. En se disant que c'est un seul paragraphe dans un bouquin qui compte 330 pages. Ce bouquin, il est rempli ce type de raisonnement. Et ce bouquin, c'est en réalité un ouvrage parmi des milliers de livres et de sites qui propagent ce genre de thèse, et en étant rempli de ce genre d'un. Je vous laisse vous convaincre que c'est plus facile d'y adhérer en les lisant que d'écouter de chacun de ces phrases pour relever les trucs foireux de manière de l'appeler. Sans parler que, comme quelqu'un ne peut pas se tromper tout le temps, pas avoir tort tout le temps, parce que forcément, quand on parle suffisamment longtemps, on finit par avoir raison sur moi. Et ben, il y a forcément donc des trucs vrais dans ces bouts. Et ces petits bouts de trucs vrais ne doivent pas suffire à nous faire adhérer vaguement à l'ensemble. C'est un peu l'enjeu, je pense, dans la discussion avec un jeune en tant qu'anime. Une fois qu'on l'a emmené sur le terrain de la rationalité, si on s'attache à décortiquer quelques arguments, il y a le risque de s'y perdre. C'est-à-dire que si on essaye de démonter tous les arguments pied à pied, on risque de ne pas y arriver. Je pense que c'est possible de le faire un peu, mais l'enjeu me semble plutôt d'être de donner les outils aux personnes pour le faire elles-mêmes et de peut-être donner quelques raisons de douter. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à avoir douté que, peut-être que l'homéopathie, je prends un autre exemple qui me concerne, l'homéopathie, il y a des raisons de croire que c'est peut-être pas certain que ça fonctionne aussi bien que ça. Et au bout de quelques discussions, on m'a laissé comprendre ça, même si je ne me suis pas approprié tout. Ça me donne la matière en fait à aller douter de ma propre croyance et donner les outils et faire naître. Plutôt de chercher à être exhaustif. Ok, une autre piste. Alors ça, c'est un conseil méthodologique un peu général. Hein. Et c'est le fait d'essayer de se forcer à s'exposer à des arguments contradictoires. On va chercher à confirmer ou à infirmer ce qu'on trouve en se servant de plusieurs sources. La diversité des sources, c'est compliqué parce que de relever que si tu regardes plusieurs journaux et que tous ces journaux se font sur la même dépêche AFP sans vérifier la dépêche, c'est une seule source, c'est pas plusieurs sources. De la même manière, si c'est pas parce qu'il y a 350 tweetos qui ont retweeté un vieux photomontage cliqué que c'est plusieurs sources. Ça demande de remonter à la source, etc. C'est un peu chiant, un peu laborieux.
Mais ça demande
eux. Ça peut être nécessaire.
Ouais, et puis ça demande aussi d'avoir une vigilance quand on lit une information ou qu'on voit une information, à regarder si la personne qui diffuse cette information, elle a la source. Et du coup, si elle nomme la source, ou si, par exemple, sur de la vidéo sur YouTube, la personne, elle met les différentes sources de ce qu'elle avance dans la description de la vidéo, etc. Enfin, j'ai l'impression que ça peut déjà être une base de...
Tout à fait, ouais. Je termine sur ce point-là, mais c'est vrai que le point d'après, il est sur la question des photos et des vidéos, et donc comment on remonte. Alors moi je voulais terminer sur la question des sources en disant qu'il faut distinguer le journalisme d'investigation et le journalisme de commentaires. On lit un article, une grande majorité d'articles qu'on trouve, c'est des articles qui sont faits vite parce que ça permet d'être vite. Et que souvent c'est simplement du commentaire d'actualité. Voilà, c'est pas la journalisme, il me semble. va parler journaliste d'investigation. Dans ces cas-là, on va pouvoir remonter aux sources, on va pouvoir, c'est assez documenté, on a accès aux données. C'est souvent chercheur. On peut parler de Wikipédia rapidement. Moi, il me semble que c'est la meilleure source, en tout cas, si on s'en sert correctement. En tout cas, c'est, il me semble, souvent la première source à aller voir. Alors, ça demanderait de se pencher un peu plus sur le fonctionnement de Wikipédia, pourquoi, mais on peut dire au moins que la structure collaborative en fait un outil assez fiable. Et non, tous les articles ne se valent pas, non, tout n'y est probablement pas exact, et tout n'y est pas. Mais bon, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup mieux comme point de départ. Alors, ça nous savait assez souvent, ils ne vont pas s'arrêter là, souvent, ou aller croiser, etc. Mais c'est simple, voilà. Notamment parce que beaucoup de ce qui est avancé sur Wikipédia est sourcé. Donc, remonter à qu'est-ce qui permet à enfin, aux gens qui ont écrit sur Wikipédia d'affirmer ça et de formuler comme ça.
Pour aller dans ton sens, Manu, c'est aussi le démarche de la publication scientifique que d'être sur quelque chose de collaboratif et de faire relire. Alors là, on est dans un secteur particulier qui est celui des gens reconnus comme étant des scientifiques, mais d'aller faire vérifier le travail que j'ai fait par mes pairs avant de pouvoir le publier, c'est aussi une démarche collaborative.
Et carrément.
C'est
vrai que.
Bah, et aujourd'hui, Wikipédia est considéré comme la source la plus fiable d'informations et de recensement des connaissances actuelles. Quoi. L'encyclopédie universaliste, c'est plus la référence, c'est Wikipédia la référence.
C'est pas le problème.
Bah, j'ai l'impression, par exemple, le CNRS, dans ses communications, renvoie ça, quoi. Il faudrait que je vous retrouve la source de ce que j'avance. Mais...
Ça pourrait être bien, ouais.
Et dans le fond, je trouve ça toujours un peu... Enfin, moi, je le disais subjectivement, parce que... je le disais subjectivement en disant « j'estime que... » Et je le disais, il faut aller voir un peu dans le détail des raisons pour lesquelles ça me semble que ça me semble être la meilleure source. Souvent, on ne va pas convaincre quelqu'un qui est à peu près convaincu que l'État, la science et des gens qu'on ne connaît pas sont de mèche pour nous faire croire des trucs, que Wikipédia fait pas partie de tout le monde. Enfin, ouais. C'est compliqué la question des sources avec quand on discute avec les personnes. C'est pas magique, mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'essayer de s'accorder sur comment faire un fil des sources et se mettre d'accord sur ce que l'on peut faire. Alors, sur la question des photos et des vidéos, alors il y a pas mal d'outils pour en éprouver la fiabilité, y compris les choses qui sont assez accessibles, assez complexes. Alors, outre le cas des trucages photos, vidéos, c'est rare que. Ouais, c'est pas rare non, que simplement des photos soient détournées. On fasse un usage détourné. Du genre, on prend des images qui ont été prises en 2003 à Dortmund, en Allemagne, et ça finit par illustrer un événement à Kiev, en Ukraine, en 2017. Pour mettre le doigt là-dessus, il y a une manière de faire, c'est d'utiliser des moteurs de recherche inversés. On va mettre l'image dans notre recherche et il va nous retrouver les différents contextes dans lesquels cette image a déjà été publiée. Donc ça peut éventuellement nous permettre de montrer que ça a été pris avant les faits. Ça a été pris ailleurs. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais tous les fois, vous trouvez dans les données existent des images, des données, des éléments qui nous disent à quel endroit c'est pris et à quel endroit. C'est pas évident, il y a aussi, donc voilà. C'est pas évident sur ce travail-là, mais au moins d'essayer de revoir, est-ce que ça n'y a pas d'autres occurrences antérieures à la publication de ce qui est censé illustrer. C'est assez juste. Il y a France 24 qui a fait un article guide sur comment vérifier les images des réseaux sociaux. Ça date de 2015, ça s'appelle comme ça, comment vérifier les images des réseaux sociaux. Il y a pas mal de ressources là-dessus. Ça peut valoir le coup d'aller regarder si vous voulez. Globalement, j'ai envie de dire qu'un des objectifs, c'est de filer aux personnes les outils de la science et des structures. pour qu'elles puissent mener leurs enquêtes. Alors, j'ai entendu par exemple parler d'une. Je sais plus, c'est une rumeur que j'ai pas vérifiée, alors c'est mal, je la relis en disant c'est mal. Une rumeur qui parle d'un groupe de platistes, c'est des personnes qui estiment que la Terre est plate et que le monde est plus grand. Bref, alors là-dedans, il y a une bonne partie de trolls, de gens qui s'amusent de propager ça sur Internet, mais il y a des gens aussi qui y croient pour de vrai. Donc, il y a un groupe de platistes qui aurait cherché à méthodiquement vérifier que la Terre était plate avec les études de la science. Et on filmait leur démarche. En fait, elles ont trouvé qu'elles ne l'étaient pas. C'est plutôt intéressant comme démarche. On trouvait que la Terre était ronde. Ce qui les a fait changer d'avis. Voilà, d'où mon idée de dire, mais peut-être qu'en donnant aux personnes les outils de la science et des scientifiques, ça s'engage. Et pour conclure, dernière intention, c'est-à-dire que se servir de cette occasion, de l'occasion de personnes dans nos centres qui véhiculent et qui s'en servent pour l'éducation, la prendre comme une opportunité pour parler des rapports de domination sous différents angles, tâcher d'armer un peu intellectuellement les personnes, ça nous semble, enfin, ça, c'est une super occasion de le faire. Plutôt que de côté en voilà, pour ma part, j'ai terminé, je pense que c'est une ouverture suffisante pour qu'il y ait des réactions.
Bah, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans les deux émissions, là, enfin, dans la première partie, c'est que ça peut s'adresser à la question du complotisme, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi des postures ou des préalables qu'on peut avoir dans toute réflexion politique, sociale qu'on peut avoir. Voilà, c'est ce que je disais en tout cas. En écoutant par ailleurs les deux, je trouve effectivement il y a plein de pistes intéressantes dans ce qui est donné. Et je me disais, au-delà même de la théorie effectivement du complot, on est dans une période où, on le disait tout à l'heure, il y a énormément d'infos qui circulent. Quand on parlait de l'information officielle, la gouvernementale, elle n'a jamais été aussi présente et aussi suivie. Donc forcément, elle amène un nombre de réactions. Et du coup, on est noyé sous plein d'infos et faire le tri. Non, je pense effectivement que c'est complexe. Je trouvais ça intéressant ton intervention, Flo, tout à l'heure sur le parallèle à la justice, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, les deux choses qui vont être utilisées pour dire si une info est vraie ou pas, c'est soit la science, soit la justice. Et que la justice, on sait bien que bon, bah, les erreurs sont extrêmement nombreuses. Et que du coup, la science, en cette période, c'est pas facile de s'y repérer, parce que je crois, si on prend juste l'histoire du professeur Raoult, là, il y a de quoi se perdre aussi dans ce champ-là, sur comment je trie une info ou pas, quoi. Et du coup, je trouve que ça crée quand même une espèce de flou dans lequel se situer n'est pas simple, et la démarche éthique ou la démarche scientifique, elle n'est pas toujours possible à tout le monde. Le deuxième truc, moi, qui me plaît aussi, c'est de se dire, j'ai l'impression que on cherche tous, alors c'est contre-pied qui essaie de prendre la zététique, hein, mais on cherche tous de l'information qui confirme ce qu'on veut penser. Et c'est renforcé par l'impact des réseaux sociaux, par le fonctionnement des algorithmes qui présentent plutôt des sites qui vont correspondre à tes autres recherches, etc. etc. Et je ne sais pas là-dedans si... Alors, il y a tout, comment est-ce qu'on débat, les arguments que tu amènes, je trouve tout intéressant dans comment est-ce qu'on peut débattre de tout ça. Moi, je me demande aussi si dans le travail qu'il y a à faire, il n'y a pas comment est-ce qu'on fait causer les gens de pourquoi j'ai envie d'adhérer à cette théorie. Enfin, qu'est-ce qui me parle dans cette théorie Et alors là, on est sur quelque chose de beaucoup moins rationnel, mais comme j'ai l'impression que le fait d'adhérer à une idée, à une théorie, c'est quelque chose d'assez personnel, je trouve... De faire causer les gens là-dessus, de confronter différentes subjectivités, c'est peut-être aussi ça, que se donner un peu de hauteur, quoi. Enfin voilà, ça peut être une autre piste aussi, même si effectivement elle n'est pas forcément pour démonter point par point la dimension complotiste, quoi. Le dernier truc, moi je me disais...
C'est pas l'objectif qu'on proposait de faire.
Ouais. Et le dernier point, moi, qui me venait aussi en termes de posture, je me disais sur lequel faire gaffe, c'est...
dans tout ce qui est rumeurs, fake news, théories du complot, etc. etc. Peut des fois y avoir, mais tu le disais, enfin, c'est pas du tout pour aller à l'encontre, mais une posture un peu méprisante. C'est-à-dire que la personne qui croit, c'est celle qui n'est pas éduquée. Et du coup, cette posture-là, je pense qu'on soit tous et toutes vigilantes. Enfin, personne ne se dit, je suis complotiste, personne ne se dit, tiens, j'ai une bonne rumeur, je vais vous la raconter. Voilà, les gens, ils, enfin, et c'est toujours l'autre qui relaie des rumeurs, des complots, des fake news. Et dans cette autre, je pense qu'il peut y avoir à plein de moments des éléments de mépris social assez forts, que ce soit classe, que ce soit. Enfin voilà, du coup, je pense qu'il y a une vigilance assez forte à avoir de notre point de vue en tant que qu'anime, qui accompagne des jeunes et des adultes, quoi.
C'est d'autant plus vrai ce que je dis sur un certain nombre d'aspects, notamment les substances, les être instruit, être éduqué et qui propage, réforme, on a un paquet d'universitaires à travers le monde qui sont des tenants de cette époque, qui on a des récentistes, ça vient de l'étude universitaire. Et généralement, il y a ça. Voilà, c'est vraiment pas qu'une histoire d'instruction, ni même peut-être d'éducation. Mais ça me semble être.
Oui, puis ce qu'on se disait la dernière fois aussi en termes de posture, mais peut-être je trouve que ça faisait écho à ce qu'Antoine tu rajoutais, c'était que évidemment c'est toujours désagréable de se rendre compte qu'on se trompe et que, du coup c'est comment on accompagne ça et qu'on ne rentre pas dans un truc dévalorisant de la personne parce qu'elle s'est plantée. Enfin, en fait, on a tous et toutes à des moments relayé des trucs qui n'étaient pas vrais et on n'a pas forcément bien vécu le fait qu'on nous fasse remarquer et du coup c'est comment on travaille ça, quoi. Après, je ne sais pas, j'ai envie de dire un dernier truc, comme là-dessus, là, sur un des enjeux, en tout cas, sur cette question du complotisme et des fake news, j'ai l'impression que c'est comment est-ce que chacun de nous se construit des références, en fait, à qui je fais confiance, comment j'ai connaissance de comment l'information se construit et comment les données se construisent, et que se construire un point de vue, ce n'est pas uniquement faire confiance à une personne ou quelque chose. C'est se construire son point de vue, c'est faire des allers-retours entre différents types de sources que je suis capable d'identifier pour leurs avantages et leurs inconvénients. Je crois qu'on a peut-être quelque chose à construire autour de ça avec le public avec qui on agit sur connaître les différentes sources d'informations, les identifier, être capable de pointer leurs avantages et leurs inconvénients pour s'en parler et se construire nos opinions.
Pointer les différentes subjectivités, les différentes sources.
Évidemment, parce que s'il y a des certains journalistes qui ont intérêt à véhiculer telle théorie, nous-mêmes, on a intérêt à adhérer plutôt à telle théorie qui va dans notre sens et qui nous permet de justifier des fois notre comportement. Pendant qu'on est en train de discuter, là, je cherchais en ligne ce que tu disais tout à l'heure, Claude, pour avoir une petite illustration sur la question de Wikipédia et de l'encyclopédia universaliste. Mais dire que tel ou tel média était une source incontournable. Et du coup, j'ai trouvé un petit article de l'université de Nice, Sophia Antipolis, qui fait un conseil à ses étudiants sur peut-on utiliser Wikipédia ou pas dans le cadre d'un travail universitaire.
Alors, c'est d'autant plus intéressant que, je ne sais pas ce que tu vas en dire, ce qu'ils en disent, mais que l'université de Nice, Sophia Antipolis, c'est elle qui accueille le. Alors, ça a été longtemps la seule, maintenant c'est plus la seule, il y en a une à Rennes, mais le seul enseignement d'éthique en France. Et okay. Voilà, il y a un enseignement, vous pouvez faire des éthiques. Alors, vas-y.
Je vous lis juste la dernière partie de leur article qui s'appelle Avantages et inconvénients des deux encyclopédies. Donc, Wikipédia, grande accessibilité, actualisée en permanence, nombreux liens vers d'autres articles de l'encyclopédie, mais qualité inégale des articles et amateurisme, souvent, malgré la vigilance des contributeurs réguliers. Depuis 2010, cependant, des partenariats sont signés avec des organismes officiels, Bibliothèque nationale de France, Muséum et d'autres, pour permettre d'enrichir l'encyclopédie de façon fiable. Et malgré de nombreuses critiques, Wikipédia semble aujourd'hui incontournable.
Encyclopédia Universaliste. Les articles sont signés par les meilleurs spécialistes, mais l'actualisation n'est pas régulière. L'encyclopédie n'est par ailleurs accessible que par abonnement, cher. Et l'accès à l'annuaire Internet n'est pas évident. Il se trouve se trouver dans les pages d'aide pour l'utiliser efficacement. Et à la conclusion, Emmet, peut-on utiliser Wikipédia dans le cadre d'un travail universitaire? La réponse est oui, mais il faut considérer Wikipédia comme un point de départ pour une recherche et toujours vérifier les informations dans d'autres ouvrages de spécialistes ou dans des bases de données auxquelles, alors là, ils parlent de leur bibliothèque universitaire, mais auxquelles bon, les étudiants ont accès. Bon, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ça met aussi en lumière tous les autres enjeux de la question de l'accès à l'information, la question du prix, la question de est-ce que c'est facile de s'y retrouver et qu'est-ce que j'ai comme outil pour m'y retrouver là-dedans, qui sont les contributeurs, est-ce que ça fait sens aux seuls spécialistes scientifiques, sachant que, comme tu viens de le dire, Manu, bah, des fois, ils participent eux-mêmes aussi à des théories du complot. Donc, il y a un truc qui est intéressant là dans ce que je disais tout à l'heure, quoi, se construire une opinion dans l'aller-retour de différents types de médias et de production, on va dire, de connaissances.
Carrément. Moi, je vous avais trouvé deux autres articles que j'avais mis dans le pad, un truc qui a été publié sur le CERN, point info, qui est une étude de 2009 sur la question de Wikipédia et un article de Science et Vie sur la science en ligne est-elle fiable, qui date de 2019. On pourra vous mettre les liens sur le podcast de l'émission.
Et puisqu'on est sur une émission sur un site, Manu, j'ai dit que la revue qui s'appelle Science et Pseudo Science. Et du coup, moi, je la lis de temps en temps et je l'aime bien parce qu'elle vient justement produire le truc dont on parlait tout à l'heure. Quand on lit, on cherche aussi des choses qui valident nos points de vue sur le monde, notre regard, parfois justifier des positions qu'on a nous-mêmes envie de prendre. Et j'aime bien cette revue parce que des fois, elle vient justement me bousculer à des endroits où j'aime pas l'être. Donc c'est confortable parce que finalement, je suis assise dans mon canapé en train de dire ça, donc ça me bouscule sans bousculer, on est d'accord. Hein. Mais je trouve que c'est aussi comment est-ce qu'on cultive ce plaisir-là finalement. Comment est-ce qu'on apprend à le développer, quoi. C'est-à-dire, bah oui, c'est aussi intéressant de sortir des fois des sources où on est dans une espèce de. On va toujours chercher un peu au même endroit finalement, quoi. Voilà, c'était juste pour dire que ça pouvait aussi être un plaisir.
Je pense pas négliger le fait que c'est aussi ce même plaisir qui peut être à l'origine d'adhésion de certaines personnes à la théorie. Côté, ah bon, ça aussi. Hein, j'aurais pas cru, quoi. Je veux dire, je suis bousculé dans mes a priori. Et, enfin, ça, c'était un peu ce qu'on disait dans la première émission. Hein. Sur l'appétence pour le doute et pour le.
Bon voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire participer à la deuxième émission sans avoir écouté la première.
Ah non, c'est pas grave du tout. ça vous plaît, ça fait des allers-retours, c'est parfait.
C'est très bien, ouais. Puis c'est agréable de pouvoir échanger avec différentes personnes. Enfin, moi, je trouve que c'est une vraie richesse là, à chaque fois qu'on invite des personnes à participer à la radio, d'un truc de revenir sur des trucs qu'on s'est déjà dit, mais avec un autre regard, etc. C'est agréable, quoi.
Non, mais c'est plus une piste. Je ne sais pas si vous avez creusé côté esthétique sur dans le justement on veut se convaincre de ce qui nous arrange ou quoi. Toutes les théories qu'il y a actuellement qui tendraient à expliquer que le Covid-19 est bien le signe du dérèglement climatique, etc., etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que je serais assez curieux prochainement de pouvoir creuser un peu. Je pensais, effectivement, c'est un truc que je voyais dernièrement, là, qui disait que c'est toujours dangereux de mettre une signification à une maladie, et la personne renvoyait à, bon, bah, si on se souvient du sida, par exemple, c'est pour punir les homosexuels et les travailleuses du sexe. Enfin, voilà, et du coup, je trouvais ça intéressant de renvoyer ce truc-là pour se dire, mais attends, en fait, quand on cherche à donner un sens à la maladie actuellement, et actuellement, c'est plutôt fait par des gens qui sont des tenants écologistes ou des collapsologues ou des choses comme ça. Voilà, je serais curieux à un moment de creuser plus ce truc-là aussi, pour se dire, voilà, oui, on n'y fait pas attention parce que peut-être c'est des choses qui peuvent nous parler, et en même temps, est-ce que pour autant c'est juste
Ah oui, tout à fait, ouais. Non, j'ai pas creusé pas suffisamment.
Il y a AIDS qui creuse un peu, je crois, là-dessus, qui a publié quelques articles et qui annonçait continuer à bosser sur cette question-là. Mais notamment sur ce que tu disais, Antoine, sur le lien avec le sida, en fait, et ils ont commencé à creuser pas mal sur cet enjeu-là. Mais je ne sais pas où ils en sont, ça fait quelques semaines que je n'ai pas regardé.
Radio.
Sans nous.
Eh bien, merci beaucoup. C'était encore un plaisir de faire de la radio avec vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir, à nous envoyer des sons. Les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas non plus à nous proposer des contenus ou à nous proposer de participer avec nous à des émissions. Vous pouvez pour ça envoyer un mail à radio.sansnous@cemea-pdll.org. Et puis, on se retrouve mercredi pour la prochaine émission généraliste et lundi midi à midi et demi pour l'émission du midi. Voilà. Ce soir pour l'émission pour les mômes.
Super.
Salut.
Bonne journée à vous.
C'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cemea-pdll.org.
Comment ? J'ai pas compris. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'éduc pop ? Bah rejoins-nous.